Albert Bataille, l'affaire Chambige, la première audience, Constantine, 8 novembre. La première audience de l'affaire Chambige s'est ouverte ce matin à 8 heures. Hier soir, je suis allé visiter la villa Chambige où s'est accompli le drame mystérieux du 23 janvier. J'ai voulu voir aussi la maison de Madame Jay. Elle est située hors de la ville, de l'autre côté de l'abîme où coule le Rumel, sur les hauteurs de la route de Mansoura. C'est une modeste habitation bourgeoise, possédée d'un petit jardin et encadrée par des haies d'aloès et de figuiers de Barbarie. Vue de là, au soleil couchant, Constantine, étagée dans les choses vagues et blondes, comme l'écrivait Henri Chambige, offre un aspect vraiment féerique. Tout autour de la villa Jay, les bois de pins maigres et poudreux où la pauvre femme, avant de quitter pour la dernière fois sa maison, avait envoyé jouer ses enfants. La distance qui sépare la villa Jay de la villa Chambige est de 10 minutes environ. La villa Chambige, la plus élégante du village de Sidi Malbrook, est une grande et belle maison précédée d'un haut et double perron tout couvert de glycines et entouré d'un parc plein de coins charmants et de délicieux bosquets de palmiers. La chambre du premier étage où Madame Jay a été trouvée morte est restée fermée et la villa Chambige elle-même est à louer. La salle de la cour d'assises est littéralement envahie. Ce n'est plus l'auditoire pittoresque des procès algériens avec les arabes désœuvrés et drapés solennellement dans les guenilles de leur burnous. C'est un auditoire de fonctionnaires, d'officiers. Et la tribune des dames est absolument remplie. De part et d'autre, les deux familles ont des partisans acharnés. On discute avec passion. Henri Chambige a conservé de nombreux amis qui, dès son entrée au palais, se presse autour de lui pour lui serrer la main. L'audience est présidée par M. le conseiller Zille des Îles. M. Maillet, procureur général à Alger, occupe lui-même le siège du ministère public. Il est assisté de M. l'avocat général de la salle 7. Maître Trarieux, sénateur, se porte partie civile au nom de Madame Dixon, mère de Madame Jay. Au banc de la défense, Maître Durier, bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour de Paris, assisté de Maître Henri Robert et de Maître Sterling, ce dernier du barreau de Constantine. Après la lecture de l'acte d'accusation, Monsieur le Président Zille des Îles interroge l'accusé sur son identité. Il répond d'une voix lente et basse : Je me nomme Henri Chambige, 23 ans, étudiant en droit, né à Médéa, habitant Paris. C'est un jeune homme au teint pâle, aux yeux perçants et inquiets. Le visage est entouré d'un collier de barbe châtain roux, très fine et coupée très ras. Les cheveux sont relevés en arrière. Chambige est très correctement vêtu de noir. Son attitude est résignée. La face tirée et amaigrie porte la trace de longues souffrances. Monsieur le Président procède à l'interrogatoire. Monsieur Zille des Îles, qui a conduit cette audience avec un tact, une impartialité, une hauteur de vue auxquelles il faut tout d'abord rendre hommage, commence par délimiter d'une façon très précise le terrain du débat. Messieurs les jurés, dit-il, une chose est malheureusement certaine. Madame Jay a été tuée à coups de revolver dans la villa de Sidi Mabrouk appartenant à l'accusé. Mais deux versions sont en présence. Madame Jay, dont la réputation était inattaquable, est-elle devenue tout à coup, comme l'affirment son mari et ses amis, impressionnable et nerveuse, après avoir assisté aux jongleries de Aïssawa, et surtout après la mort d'un enfant? A-t-elle été fascinée et magnétisée par l'accusé? Chambige l'a-t-il entraînée dans sa maison par le regard? Et après avoir abusé d'elle, l'a-t-il assassinée pour supprimer l'unique témoin du crime? Ou bien Henri Chambige lui-même, malade et névrosé, a-t-il surexcité chez Madame Jay une passion tellement violente que tous deux en sont arrivés à vouloir mourir ensemble et qu'il ne l'a tuée que sur son ordre formel? C'est sur ces deux hypothèses que roule tout le débat. Chambige se lève. La voix est pénétrante, captivante, quoique étranglée par les sanglots et voilée par les larmes. On a pu juger par les fragments de mémoire que j'ai publiés de son mérite d'écrivain. La parole est encore supérieure à la plume. Oh, je n'ai pas à juger ici si Henri Cambiche est un comédien ou un homme sincère qui raconte avec une émotion poignante l'histoire douloureuse de son cœur. Ce serait en tout cas un comédien d'une telle force que l'attitude, le geste, le regard, le timbre de voix, tout donnerait l'impression de la vérité. Jamais auditoire n'a été plus profondément remué. D. Vous avez négligé vos études de droit pour vous adonner à des études psychologiques qui semblent avoir exercé une influence néfaste sur votre esprit. Vous habitiez Paris, mais dans ces deux dernières années, vous avez fait deux voyages à Constantine, l'un pour le mariage de votre sœur et l'autre pour une maladie grave de votre mère. Votre famille était liée intimement avec la famille Jay, qui jouit ici de l'estime universelle. R. Oh, personne ne l'a jamais contesté. D. Quant à Madame Jay elle-même, Monsieur le pasteur Bercier, qu'il a connu enfant et qu'il a marié, l'a dépeint comme une nature charmante, comme une femme étroitement attachée à ses devoirs. Et il dit, dans un témoignage éloquent, combien elle a toujours été frappée de l'expression de bonheur et de mutuelle confiance des deux époux. Madame Raoul Duval, l'amie d'enfance de Madame Jay, rejette avec horreur la pensée même d'une faute. Nous arrivons au fait. Dans la matinée du 23 janvier 1888, vous avez rencontré à la gare de Constantine Monsieur Jay, qui partait, lui, en tournée. Vous lui avez dit que vous-même vous retourniez en France. Et cependant, changeant aussitôt d'idée et profitant de l'absence de l'ingénieur, vous êtes rentré à Constantine et vous vous êtes présenté chez Madame Jay. Restez seul. Que s'est-il passé dans cette entrevue? Réponse. De grand matin, sentant bien que je n'y reviendrai plus jamais, j'étais monté à notre villa de Sidi-Malbrouck pour dire un dernier adieu au lieu où s'était écoulée mon enfance. J'avais cueilli quelques violettes et une rose. Et en passant devant la maison de Madame Jay, j'entrai pour lui offrir ses fleurs. Elle était avec ses deux petites filles, et en m'apercevant, elle les éloigna pour rester seule avec moi. Je lui appris mon départ pour la France. Oui, dit-elle, partez vite. Et elle se mit à pleurer. Nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre. Cette vie est impossible, reprit-elle. Et après quelques hésitations, elle me fit part de sa volonté inébranlable de partir avec moi. Il était convenu que je la prendrais en voiture d'après-midi, assez loin de chez elle, que nous nous rendrions à une gare voisine pour éviter d'éveiller les soupçons. Je sortis pour chercher de l'argent. Oh, j'avais bien 500 francs pour mon voyage, mais il m'en fallait 10 000 pour partir avec elle. Pendant les quelques heures que je passais vainement chez les banquiers, sous la conduite de mon excellent ami Paul Rieu, Madame G, qui avait peur de rester seule, peur d'elle-même, selon ses propres paroles, sortit pour aller soigner l'enfant malade d'une voisine, Madame Schwerbe. Puis elle envoya ses propres enfants jouer dans les pins. Demande. Mais comment la pensée même de ces deux pauvres petites fillettes ne vous a-t-elle pas arrêté? Réponse. Monsieur le Président, il y a des moments d'exaltation où l'on ne pense à rien. Demande. Vous saviez aussi que cette malheureuse femme a laissé inachevée une lettre pleine d'enjouements et de détails sur ses petites filles, sur leurs petits travaux, aux lettres qu'elle écrivait à sa mère. Est-ce ainsi qu'écrit une femme qui va se faire enlever ou se tuer? Comment expliquez-vous cela à vous, psychologue? Réponse. Mais Madame G avait écrit cette lettre avant d'apprendre mon départ et de recevoir ma visite du matin. Elle n'avait pris encore aucune résolution extrême. Demande. Mais pendant que vous couriez, Constantine, pour chercher de l'argent, Madame G est rentrée déjeuner avec ses deux filles. On l'a entendue rire et chanter avec elle. Réponse. C'est la caractéristique d'une grande surexcitation nerveuse de provoquer souvent de telles gaietés. Demande. Mais Madame G prenait le plus grand soin d'elle-même. Et comment expliquez-vous qu'elle n'ait préféré préparer ni vêtements ni linge pour fuir? Réponse. Si elle avait fait le moindre préparatif, elle eût éveillé la surprise de ses domestiques. La simple prudence l'obligeait à ne rien emporter. Demande. Mais comment expliquez-vous encore que vous ayez eu besoin de chercher 10 000 francs pour fuir avec elle? Madame G avait chez elle 2 000 francs d'argent et des titres pour une somme considérable. Réponse. Il n'y a pas un homme d'honneur qui ne me comprenne. Je ne voulais pas partir avec une femme grâce à l'argent de cette femme, à l'argent du mari peut-être. Demande. Ces sentiments-là ne vous ont pas empêché de tuer cette femme? Réponse. Oh, c'est tout autre chose. Vous êtes revenu vers 3 heures chez Madame G. Jusque-là, il n'avait pas été question de mourir ensemble, mais de fuir ensemble. Et pourquoi donc aviez-vous acheté un revolver? Mais pour me tuer, moi? Du reste, quand bien même nous aurions réussi à nous enfuir, le suicide était nécessairement au bout de ces quelques journées de bonheur. Demande. Oh, nous n'en savons rien. Tant de liens rattachent à la vie. Monsieur le Président fait ici une allusion discrète au suicide manqué d'Henri Chambige. Vous êtes revenu chez Madame G vers 3 heures, après avoir inutilement cherché de l'argent dans tout Constantine. Et que s'est-il passé dans cette seconde entrevue? Réponse. Oh, la crosse de mon revolver sortait de ma poche. Madame G n'a pas eu de peine à deviner mon dessein. Elle me dit que, puisque nous ne pouvions partir ensemble, elle était décidée à mourir avec moi. Je l'ai fait monter en voiture et nous nous sommes dirigés vers notre villa de Saint-Marbrook. Demande. Une de ses domestiques l'a vue monter à côté de vous en landau. Elle était très calme, sa physionomie ne trahissait aucune émotion. C'est un témoignage de domestique. Ah, c'est le seul que nous puissions avoir. Cela arrive assez souvent dans la vie. Mais cela ne lui donne pas plus de valeur. Du reste, nous étions en effet fort tranquilles. Nous avions le sentiment d'une grande délivrance, la libération des soucis de la vie. Demande. Un tel éclat doit au contraire se manifester sur les traits du visage. Une mère n'abandonne pas ainsi ses enfants sans leur dire adieu, sans les embrasser. Il n'y a pas besoin d'être psychologue pour comprendre tout cela. La surexcitation se manifeste parfois par un grand calme. Vous avez prétendu que pendant la route, vous aviez chanté la romance de Faust, Salut au bon dernier matin. Or, le cocher déclare n'avoir rien entendu. La partie antérieure du landau était relevée. Il ne pouvait pas nous entendre. Et que s'est-il passé à la villa de Sidi Mabrouk? Henri Chambige se recueille un instant. Ses muscles se tendent. Il pétrit la barre de ses mains douloureusement contractées. Enfin, comme s'il surmontait avec peine une indicible angoisse, il se raidit en arrière et commence d'une voix lente et sourde son triste récit. En montant le perron, j'avais dit au cocher qu'il nous attendrait peut-être longtemps. Je fermais la porte de la maison à clef, car j'avais dit à mon ami Paul Rieu que j'étais décidé à me faire sauter la cervelle si je ne trouvais pas 10 000 francs. Et je savais qu'il était à ma recherche. En entrant dans ma chambre à coucher, Madame G me dit que j'étais l'homme et que je devais avoir le plus de courage. Elle me fit jurer sur la tête de ma mère et de sa petite fille Louise de la tuer. À ce moment, je ne m'apercevais pas du caractère monstrueux d'un pareil serment, sensation. Je trouvais au contraire qu'il donnait à notre mort volontaire un caractère sacré. Et l'accusé fond en larmes. Sa voix est coupée pendant quelques instants par les sanglots. J'ai passé avec elle des moments délicieux, reprend-il enfin d'un ton précipité, saccadé. Il y a des choses que je ne peux pas dire. J'ouvris mon portefeuille, j'y trouvai la dernière lettre qu'elle m'avait écrite. Et comme nous n'avions ni l'un ni l'autre d'allumette pour la brûler, je la déchirai par petits morceaux que je jetai par la fenêtre. Et enfin, elle me dit ce seul mot, partons. Et elle ajouta, après un long silence, quel dommage que je n'ai pas amené les petites avec moi. Longue sensation dans l'audience. Et Chambige ajoute d'une voix plus en plus hachée, je tremblais comme maintenant. Je ne croyais pas qu'il fût possible à un homme de trembler autant. Elle me regarda et me dit encore, oh, que ce soit fait tout de suite, tout d'un coup. Promets-moi seulement de me mettre dans la main droite la rose que tu as cueillie ce matin et de m'embrasser après. Je me donne à toi, m'avait-elle dit. Mais jure-moi, surtout ce que tu as de plus sacré, que tu me tueras tout de suite. Alors elle me vit encore jurer sur la tête de sa fille Louise que j'aimais tant. Je voulais redescendre au jardin pour cueillir encore des roses, elle n'a pas voulu. Tu es un lâche, reprit-elle. Tue-moi tout de suite, tu m'as promis de me tuer aussitôt déshonoré. Et elle appuya elle-même le revolver sur sa tempe droite, et au bout d'un instant, non, non, venez pas bien placé, dit-elle, et elle l'assura de nouveau. Alors, j'ai tiré. Henri Chambiche ne peut en dire davantage. Il retombe sur son banc en proie à une crise nerveuse, mordant frénétiquement son mouchoir. Monsieur le Président, vous avez pris bien des précautions pour tuer cette femme. Vous avez fait feu 2 fois sur elle. Comment se fait-il que vous soyez tiré dans la bouche une balle qui vous a manqué en vous faisant une cicatrice à la joue et une seconde balle qui n'a fait que vous roussir la barbe? Oh, je le regrette bien. On a déduit de là que votre tentative sur vous-même pouvait bien n'être pas sérieuse, et que vous aviez assassiné Madame G en simulant un drame d'amour. L'accusé, avec une explosion de douleur. Moi, un assassin? Mais c'est épouvantable, c'est monstrueux. Voyons, voyons, il y a au moins une chose que personne ne conteste, c'est que je l'aimais et je l'aurais tué. Mouvement prolongé. Monsieur le Président montre au juré la cicatrice que l'accusé porte encore sur la joue gauche. L'honorable magistrat lit ensuite le premier procès-verbal de constat. Comme je l'ai dit déjà, le corps de Madame Jay ne portait aucune trace de violence. La pauvre femme avait dans la main droite le bouton de rose cueilli le matin. La chemise était relevée jusqu'à la poitrine. Le gilet de flanelle, en partie déboutonné. Une fraîchie arabe recouvrait les jambes. Le corset était délacé. Les jupons, le pantalon, le corsage étaient posés sur les meubles ou sous l'édredon. Ni les agrafes, ni les boutonnières n'avaient été arrachées. Tout était en ordre et le linge dans un état parfait de fraîcheur. Les volets de la fenêtre étaient entr'ouverts à demi. J'ai dit aussi dans mon exposé préliminaire l'exaltation de Cambidge, ses cris, ses supplications. Hélène, Hélène, nous nous aimons, nous avons voulu mourir ensemble. Tuez-moi, laissez-moi, donnez-moi du poison. Et il explique qu'on la trouva ainsi dévêtue parce qu'ils avaient voulu mourir dans un baiser. Monsieur le Président, vous avez dit que Madame Jay avait éprouvé pour vous une véritable passion. À l'appui de cette affirmation, vous avez produit un conte d'enfants dédié par vous à vos petites amies Louise et Marthe, ses filles, et qui, par une ironie cruelle, a paru dans le journal Le Foyer Domestique une semaine à peine après la mort de la mère. Mouvement prolongé. Oui, certes, je voulais faire plaisir aux petites, mais c'était là un moyen de me rappeler à Madame Jay. Mais Monsieur Jay, vous avez envoyé à Paris un paquet de livres. Mais c'était Madame Jay qui en avait écrit l'adresse. C'était encore un moyen de me faire savoir qu'elle pensait à moi. Enfin, on a trouvé chez vous, rue Gay-Lussac, un télégramme, des lettres, une boucle de cheveux blancs. Cela est vrai. Mais vous me rendrez cette justice que je n'avais jamais parlé de tous ces souvenirs de Madame Jay au juge d'instruction. On les a saisis en dehors de moi. Monsieur le Président, à l'aide d'une loupe, donne lecture des billets écrits sur de tout petits morceaux de papier et presque illisibles à l'œil nu. Le premier, celui qui ne contenait que ces deux lignes, c'est une partie de celle que tu m'as donnée, enveloppait la mèche de cheveux et des fleurs. Le second était ainsi conçu. Non, non, ne t'en va pas, pense à moi. Que vais-je devenir, ne plus te voir? Je suis folle, folle. Dis, tu me le crois, pas. Je t'aime plus que tout au monde, prends-moi. Ne doute donc pas de mon amour, tu me fais mal. Ce billet aurait été remis de la main par Madame Jay. Quant au troisième, suis désespéré, donnez nouvelles. Je n'ai rien dit, brûle les lettres. Il aurait été envoyé par Madame Jay à Chambige pendant le dernier séjour de l'accusé à Paris. Monsieur le Président. Monsieur Jay assure que ce n'est pas l'écriture de sa femme. Réponse. Monsieur Jay n'a aucune qualité pour être consulté à cet égard. Il a dit lui-même au début que l'écriture ressemblait beaucoup à celle de Madame Jay. Mais les experts déclarent que les billets ne sont pas de Madame Jay. Je récuse ces experts, de simples professeurs du lycée de Constantine, liés avec Monsieur Jay ou ses amis. Il suffit de lire leur expertise pour la juger. Demande. Reste enfin un télégramme qui vous a été adressé à Paris. Et dont voici les termes. Monsieur Chambridge, 72 rue Gay-Lussac. Ne m'en voulez pas, écrirai plus tard, trop triste, sans nouvelles. Signé Hélène, adresse Dixon, ou de Mansoura. Monsieur le Président. Monsieur Jay a reconnu que ce télégramme avait été parfaitement écrit par sa femme. Mais à l'occasion de la mort de votre sœur, Madame Couverchev. Du reste, Madame Gell avait porté sur son livre de dépenses 2 francs 10, ce qui indique qu'elle ne jugeait aucunement compromettant. Réponse. Oh, une femme qui envoie un télégramme de simple condoléance ne signe pas de son nom de baptême, Hélène. Ben, l'objet l'orthographié est ordinairement Hélène, E2LEN, et ne donne pas comme adresse son nom de jeune fille, Dixon, au lieu de donner le nom de son mari. Demande. Certains faits concordent avec votre défense et je dois les rappeler. Il est certain que Madame Jean est partie avec vous, simplement, sans violence, qu'elle a pu vous entendre quand, arrivée à la villa de Sidi Mabrouk, vous avez dit au cocher: vous allez attendre peut-être longtemps. Elle a pu enfin vous entendre refermer la porte à clef. Il est hors de doute qu'on a entendu les coups de feu de revolver qu'à 4 h 30, alors que vous étiez enfermé en tête à tête depuis 2 h 30. Tout cela est constaté. Il a été également impossible de trouver sur elle la moindre égratignure ou la trace d'aucun poison, d'aucun anesthésique. Vous avez bien demandé la veille du nom d'un homme à un pharmacien en l'interrogeant sur la quantité nécessaire pour tuer une personne, mais il ne vous avait pas donné. C'était pour me tuer moi-même. On a retrouvé dans une pièce voisine de la chambre à coucher des taches gluantes et visqueuses, mais l'expert chimiste déclare qu'il n'a aucune raison de croire qu'elles viennent d'une matière toxique. Enfin, on avait prétendu que vous étiez occupé de suggestion et d'hypnotisme. Rien n'a été précisé à cet égard. On a seulement trouvé chez vous une revue qui renfermait quelques feuilles d'un article sur l'hypnotisme. Seulement, ces feuilles n'étaient même pas coupées. Mais en tout état de cause, que vous ayez assassiné Madame Jay, vous vouliez tuer sur sa demande, parce qu'elle ne voulait pas survivre à son déshonneur volontaire, vous n'en avez pas moins détourné de ses devoirs une femme irréprochable. Vous avez enlevé à l'affection de son mari et de ses deux malheureux enfants. Réponse. Oui, c'est en effet une situation effroyable, une mort réputée pour déshonorante, mais c'est une mort héroïque. Longue agitation dans l'auditoire. Monsieur le Président, les deux pauvres fillettes de Madame Jay pourront apprécier tristement cet héroïsme quand elles seront en âge d'être mariées. Un sentiment unanime. Monsieur le procureur général Maillet demande ensuite à Henri Cambitsch de préciser les origines de sa liaison. Un sourire mélancolique éclaire le visage de l'accusé. Il parle lentement, les yeux clos, comme en rêve, comme si, s'éloignant pour quelques instants des tortures de l'heure présente, il se reportait avec bonheur vers des jours à jamais disparus. Je l'ai vu pour la première fois, commence-t-il, à l'occasion du mariage de ma sœur, Madame Couvertchelle, dont elle était l'amie. Elle vint chez nous à plusieurs reprises. Nous causâmes souvent. Je tirais même avec elle au pistolet. Mais à cette époque, il n'y avait dans mon cœur qu'un sentiment de bonheur à me trouver auprès d'amis charmants. Car, je dois le dire, Madame Jay et son mari ont toujours été parfaits pour les miens. Je revis Madame Jay plus tard, lors de la mort de ma pauvre sœur que j'avais tant aimée. Elle pleurait elle-même la mort d'un petit enfant. Nous nous consolâmes l'un l'autre et ce double chagrin fut un trait d'union entre nous. Elle avait voulu garder chez elle, pendant notre deuil, mes deux petites sœurs, et elle me voyait si triste qu'elle insista à plusieurs reprises pour que je vinsse demeurer moi-même dans sa maison. Bien que M. Gray insista lui-même avec une grande bonté, je refusai. J'étais cependant bien malheureux. Je souffrais de la mort de ma sœur, d'un amour que j'ignorais encore, peut-être aussi de douleurs imaginaires. Je travaillais jour et nuit pour oublier. Chaque soir, je montais à cheval et j'apportais à Madame Jay des roses de mon jardin. Mais j'étais tellement énervé que pour un rien, j'éclatais en sanglots. Et Madame Jay me consolait, me suppliait de laisser l'âme libre. Elle rêvait de me faire du bien. Je conjure de ma sœur morte. Il y avait chez nous une grande ignorance mutuelle de notre amour. Oui, la passion est née, elle a grandi, à notre insu. Il y a tant de nuances dans ces sentiments-là. Henri Chambige s'arrête un instant, comme sous le charme de ses réminiscences, les yeux de plus en plus perdus dans le vague. Monsieur le procureur général Maillet, quel jour l'avez-vous dit que vous l'aimiez? C'était au mois d'octobre 1887, le 13. Oui, je me rappelle cette date parce que c'est l'anniversaire de la mort de mon père. Ma mère et moi, nous dînions chez Madame Jay. Avant le dîner, je me penchai vers elle et je lui dis tout bas, « Madame, je vous aime. » Elle m'emmena dans le salon et dit à son tour, « Oui, aimons-nous comme frères et sœurs. » Puis, par une de ces contradictions qui sont familières dans l'amour, elle me donna le premier baiser. Alors, comme nos sentiments, les événements se précipitèrent. Un jour, j'eus, en passant devant sa porte, une telle crise de larmes qu'il fallut me porter chez elle. Madame Jay et son mari accoururent à mon secours, mais elle, avec une infiniment plus d'émotion et de tendresse. Et pendant que Monsieur Jay allait chercher des voisins, elle me parla longuement. Elle sentait bien que c'était à cause d'elle que je souffrais, que j'étais dans cet état. « Je voudrais que mon mari nous voie à travers les persiennes, disait-elle, et qu'il nous tue ensemble. Quel est le premier jour où vous avez plus en eu de doute sur la nature des sentiments que vous éprouviez l'un pour l'autre? Tous les cœurs qui ont aimé savent qu'il est impossible de préciser la date d'une pareille certitude. Et à quel moment vous avait-elle remis sa photographie et une boucle de ses cheveux? Au mois d'octobre 1887, lors de mon départ pour la France. Vous vous êtes expliqué déjà sur l'attitude du mari. Bien longtemps, je me suis tue sur le couple de M. Jay. Je ne voulais pas trahir le secret de l'hospitalité. Mais on a répété sur mon compte tant d'infamies que je me regarde comme délié. Je persiste à dire qu'un jour, comme Madame Jay me faisait passer un billet, ces deux petites filles que je ramenais d'une promenade en voiture se sont écriées « Regarde donc, papa, ce que maman vient de donner à Monsieur Chambige. »« Laisse donc !» fit simplement Monsieur Jay. Et il changea la conversation. Et une autre fois, pendant une partie de le round tennis, Madame Jay me remit un billet qu'elle me reprit presque aussitôt comme elle avait l'habitude de le faire. Dans ce billet, elle m'apprenait qu'elle ne pouvait plus vivre ainsi dans la mésestime d'elle-même, qu'elle venait d'avouer à son mari qu'elle ne l'aimait plus. Et peu de jours après, elle me dit que son mari lui avait répondu « Madame, si j'étais seule, je saurais ce qu'il me reste à faire, mais j'ai des enfants. » C'est toute cette famille Chambige qui vous a détraqué. Il faut prendre de l'huile, de foie, de morue, et dans un mois, vous me donnerez une réponse définitive. Vous avez dit que M. Jay s'amusait à vous taquiner en prenant devant vous sa femme sur ses genoux et en la dégrafant. Cela est arrivé une fois, mais on exagère cette scène. Le sentiment que j'ai manifesté est ridicule. « Madame Jay, vous avez dit que votre mort serait considérée comme une beauté, que l'on vous admirerait. »« Oui, je lui avais parlé des amants de Montmorency, d'Alfred de Vigny. » L'interrogatoire est terminé.